Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge.
Je voudrais évoquer aujourd'hui une pièce qui est connue dans le monde entier, une pièce de Molière qui s'appelle L'Avare. Alors, L'Avare a été joué pour la première fois en 1668. On dit que Molière s'est inspiré de Plaute, c'est possible. Et ce qui était amusant, c'est que dans la distribution de la création, il y a Armande Béjart, enfin, Mademoiselle Molière, puisque elle a épousé Molière en 1662. Ils ont eu un fils en 1664. Et ce fils a un parrain illustre, le roi Louis XIV. Mais dans la même distribution, il a sa mère, Armande. Armande, qui était la maîtresse de Molière avant que sa fille ne l'épouse. C'est assez amusant. Par contre, le personnage de Tartuffe, lui, est presque devenu un nom commun. On dit un harpagon pour désigner un personnage avare. De la même façon qu'on dit un tartuffe, toujours d'après le titre d'une pièce de Molière. Alors, l'intrigue de l'avare est, comme souvent chez Molière, un peu, on va dire, tarabiscotée. Visiblement, ce n'est pas ce qui l'intéresse le plus. Les dénouements chez Molière sont toujours un peu artificiels. Mais ce n'est pas le plus important. Et remarquez que l'avare n'échappe pas à la règle. Alors, nous sommes chez Harpagon. Harpagon a deux enfants, un fils et une fille. Le fils s'appelle Cléante, la fille s'appelle Élise. Et ces deux enfants ont eu la malencontreuse idée de tomber amoureux. Et on va voir que cela pose d'énormes problèmes. Alors, Élise est amoureuse de Valère. Cléante est amoureuse de Marianne. Mais ils vont très vite se heurter à leur père. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, un père était quand même l'autorité suprême dans la famille. Alors voici un premier entretien entre les deux enfants d'Harpagon, Cléante et Élise. C'est intéressant parce que ça permet d'introduire les personnages. Cléante, je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur, et je brûlais de vous parler pour m'offrir à vous d'un secret. Élise, me voilà prête à vous ouïr, mon frère, qu'avez-vous à me dire? Oh, bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père, que le nom de fils me soumet à ses volontés, que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait les maîtres de nos voeux et qu'il nous est enjoint de n'en disposer que par leur conduite, que n'étant prévenus d'aucune ferveur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre. Qu'il en faut plutôt clore les lumières de leur prudence que l'aveuglement de notre passion et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans les précipices fâcheux. Je vous dis cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire, car enfin, mon amour ne veut rien écouter, je vous prie de ne me point faire de remontrances. Élise. Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez ?
Non.
Mais j'y suis résolu et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raison pour m'en dissuader. Suis-je, mon frère, une si étrange personne ?
Non, ma sœur, mais
vous n'aimez pas, vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs et j'appréhende votre sagesse.
Oh, hélas, mon frère, ne parlons point de ma sagesse. Il n'est personne qui leur manque, du moins, une fois en sa vie, mais si je vous ouvre mon cœur, peut-être serais-je à vos yeux bien moins sage que vous.
Ah, plutôt ciel que votre âme comme la mienne. Finissons auparavant votre affaire et me dites qui est celle que vous aimez.
Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables.
Alors, évidemment, on ne va pas tarder à s'apercevoir que si Cléante est amoureux de Marianne, Harpagon l'est aussi. Et le père et le fils vont se trouver en rivalité sur cette affaire-là. Alors, avant que nous abordions l'arrivée d'Harpagon sur la scène, à la scène 3 de l'acte 1, je voudrais simplement rappeler pour mémoire que le théâtre français a eu deux Harpagons éblouissants, Charles Dullin et Jean Villard au TNP. Mais revenons-en à la pièce et voici l'entrée d'Harpagon. Harpagon en compagnie du valet de son fils, La Flèche.
Harpagon. Hors d'ici tout à l'heure et qu'on ne réplique pas, allons que l'on détale chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence.
La Flèche à part. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps.
Harpagon, tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous ?
Ah ah ah, c'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sors vite que je t'assomme.
Qu'est-ce que je vous ai fait ?
Tu m'as fait que je veux que tu sortes.
Mon maître, votre fils, m'a donné l'ordre de l'attendre.
Va-t'en l'attendre dans la rue et ne sois point dans ma maison, planté tout droit comme un piqué, à observer ce qui se passe, faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître, dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévorent ce que je possède, furette de son côté, pour voir s'il n'y a rien à voler.
Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler ? Êtes-vous un homme volable quand vous enfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit ?
Je veux enfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît.
Ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait.
Ah bah, je tremble d'iner soupçonner quelque chose de mon argent.
Ne serais-tu pas homme à faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché?
Vous avez de l'argent caché?
Non, coquin! Je ne dis pas cela, j'enrage. Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai.
Ah! Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose.
Tu fais le régénère sous l'arrêt de raisonnement. Sors d'ici encore une fois.
Bien! Je sors.
Attends.
Ne m'emportes-tu rien ?
Que vous emporterai-je ?
Tiens. Viens ça que je vois, montre-moi tes mains.
Les voilà.
Les autres.
Les autres ?
Oui.
La Flèche retourne les mains dans l'autre sens.
Les voilà.
Désignant les hauts de chaussée de La Flèche.
N'as-tu rien mis ici dedans ?
Voyez-vous-même. Harpagon tâte le bas des hauts de sauce. Ces grands hauts de sauce sont propres à devenir les receleurs de sauce qu'on dérobe et je voudrais bien qu'on en eût fait pendre quelques-uns. La flèche n'a pas à qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint, que j'aurais de joie à le voler.
Quoi?
Qu'est-ce que tu parles de voler?
Je dis que
vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé.
C'est ce que je vais faire.
La flèche, la peste, soit de l'avarice et des avaricieux.
Comment? Que dis-tu?
Ce que je dis,
oui. Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux?
Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux.
De qui veux-tu parler?
Des avaricieux.
Et qui sont-ils ces avaricieux?
Des vilains et des lagres.
Qu'est-ce que tu entends par là?
Mais de quoi vous mettez-vous en peine?
Je me mets en peine de ce qu'il faut.
Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous?
Je crois ce que je crois. Mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle... Je parle à mon bonnet. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux?
Non.
Mais je t'empêcherai de jaser, d'être insolent. Tais-toi.
Je ne nomme personne.
Je te rostrerai si tu parles.
Qui se sent l'air morveux, qui se mouche.
Te tairas-tu, oui?
Malgré moi.
Ha ha.
La flèche montra à Harpagon une poche de son juste au corps.
Tenez,
voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons, rends-le-moi sans te fouiller.
Quoi? Ce que tu m'as pris?
Je vous ai rien pris du tout.
Assurément,
assurément.
Alors va-t'en, à tous les diables.
Voilà fort bien congédié.
Et
Harpagon, resté seul un moment, révèle le fin mot de l'histoire. Certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Et bienheureux qui a tout son fait bien placé et ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle, car par moi, les coffres-forts sont suspects. Je ne veux jamais m'y fier. Je tiens justement une franche amorce à voleur. Et c'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré tout dans mon jardin 10 000 écus comme on rendit hier. 10 000 écus en or chez soi est une somme assez... Et là-dessus arrivent ses deux enfants. Et c'est là que l'intrigue commence à se nouer. Harpagon leur révèle qu'il a décidé de se remarier, et se remarier, évidemment, comme par hasard, avec Marianne, dont est amoureux fou son fille, Cléante. Je vous propose une pause musicale. voici là le moment où Cléante découvre qui son père veut épouser. Vous êtes résolu, dites-vous, d'épouser Marianne. Qui ? Vous ? Vous ? Oui, moi. Que veut dire cela ? Il m'a pris tout à coup un éblouissement, je me retire d'ici. Oh, cela ne sera rien, allez vite boire dans la cuisine un grand verre d'eau claire. Quand il s'adresse à sa fille, quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler, et pour toi, je te donne au seigneur Anselme. Au seigneur Anselme ? Oui, un homme mûr, prudent, sage, qui n'a pas plus de 50 ans et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît. Mets-toi un petit-fils, mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père, je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir. Cela ne sera pas, mon père. Cela sera, ma fille. Non, si. Non, vous dis-je. Si, vous dis-je. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras point et tu l'épouseras, mais voyez, quelle audace ! A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père ? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte ? C'est un parti où il n'y a rien à redire et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Voici donc, dans la famille Harpagon, le père en rivalité, enfin, lui, on n'est pas tout à fait conscient, en rivalité avec ses deux enfants. Et on apprend au passage que son fils, pour faire face à ses dépenses, a emprunté de l'argent. Ce qu'il ne sait pas, c'est que par un intermédiaire, il a emprunté de l'argent à son propre père. Et c'est là qu'on va faire la connaissance d'un personnage qu'on appellerait une entremetteuse, dont le programme il est marqué « Femme d'intrigue ». Ce personnage s'appelle Frosine. Rappelons qu'à l'origine, le rôle a été créé par Madeleine Béjart. Eh bien, qu'est-ce Frosine ? Ah ! « Mon Dieu, que vous vous portez bien, que vous avez là un vrai visage de santé. Qui, moi ? Jamais je ne vous vis un si frais, si gaillard. Tout de bon, comment vous l'avez de votre vie, été si jeune que vous êtes, et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Ah, cependant, Frosine, j'en ai 60 bien comptés. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans ? Voilà bien de quoi, c'est la fleur de l'âge, cela, et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mais 20 années de moins, pourtant, ne me feraient point de mal, que je crois. Vous moquez, vous. Vous n'avez pas besoin de cela, vous êtes d'une patte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois ? Assurément. Vous en avez toutes les marques. Oh, que voilà bien entre vos deux yeux un signe de longue vie. Tu te connais à cela ? Sans doute. Montrez-moi votre... Ah, mon Dieu ! Quelle ligne de vie ! Comment ? Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là ? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire ? Ah, par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6-20. Est-il possible ? Il faudra vous assommer, vous dis-je, si vous mettez en terre et vos enfants et les enfants de vos enfants.
Tant mieux. Alors,
comment va notre frère? Faut-il le demander? Et me voit-on mêlé de rien dont je ne viens à bout? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'est point de parti au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler. Et je crois que si je me l'étais mis en tête, que je marierais le camp turc avec la République de Venise. Oh, il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire-ci, comme j'ai converti chez elle, que je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous, et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre, qui a fait réponse. Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qu'il doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. C'est que je suis obligé, Frosine, de donner à souper au seigneur Anselme. Je serai bien aise qu'elle soit de régal. Vous avez raison, elle doit après dîner rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour voir et ensuite assister au souper. Eh bien, elles iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai. Ah, voilà justement son affaire. Mais Frosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle cédât un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci, car encore n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose? Comment? C'est une fille qui vous apporte 12 000 livres de rente. Oui. 12 000 livres de rente. Oui. Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes, et avec elle, par conséquent, il faudra ni table bien servie, ni consommer d'esquis, ni orgemandés perpétuels, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cela ne va pas si peu de choses qui ne montent bien tous les ans à 3 000 francs pour le moins. Autre chose, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux, ou dont c'est pareil avec tant de chaleur. Et c'est certain, cet article-là vaut plus de 4 000 livres par an. Et la conversation se poursuit, Frosine continuant à assurer à Harpagon qu'il est le plus séduisant des hommes et qu'il n'aura aucune peine à conquérir Marianne. Mais voilà que Harpagon découvre que cette cassette où il a mis de l'argent a été dérobée. Et alors là, c'est le drame. Il ne arrive pas à accepter que quelqu'un ait pu pénétrer chez lui pour dérober cette cassette. Et c'est la fameuse scène, le fameux monologue d'Harpagon. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé cet or, mon argent. Qui peut être? Qui est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Oh, qui est-ce? Arrête! Il se prend le bras. Ah! Il réalise que c'est son bras, il lâche. Mon esprit est troublé, j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais, là. Mon pauvre argent. Mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est fini. Pour moi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. En effet, je n'en peux plus. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressuscité en me rendant mon cher argent ou en me prenant qu'il a pris. Hein? Que dites-vous? Oh, je n'ai personne, il faut que ce soit celui qui fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure et on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je vais aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille, à moi aussi. Que les gens d'assemblée, je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons et tout me semble m'envoler. De quoi est-ce qu'on parle là-dessus qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est de grâce? Si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je suis pris qu'on m'en dise. N'était point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gênes, des potents, des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Alors bien sûr, cette tirade très célèbre a un peu éclipsé le contenu de la pièce. Et finalement, il faut arriver à une conclusion. On va découvrir qu'Anselme, à qui Harpagon voulait marier sa fille, est le père des deux amoureux qui des enfants de Harpagon. Et alors, avec une histoire assez difficile à suivre d'enlèvement, ce père décide de marier ses deux enfants avec les deux enfants d'Harpagon. En échange, Harpagon va retrouver sa chère Cassette. Et, plus que tout, Anselme va prendre à sa charge tous les frais de la double noce. Alors, Anselme dit, allons faire part de notre joie à votre mère, il parle à ses enfants. Et la pièce s'achève sur l'ultime réplique d'Harpagon « Et moi, voir ma chère Cassette. » Je vous remercie de m'avoir écouté.